Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 4 juillet 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Avec un retour sur la visite du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian en Syrie. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié de positif les récents pourparlers indirects entre Téhéran et Washington, dans la capitale qatari, pour la relance de l'accord de 2015. Nucléaire, toujours la date et le lieu du prochain cycle des négociations bientôt finalisées. Et puis le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères en visite à Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les récents pourparlers indirects entre Téhéran et Washington, dans la capitale qatari, pour la relance de l'accord de 2015, avaient été positifs. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec son homologue française, Catherine Colonna. Il a déclaré que la voie de la diplomatie pour parvenir à un accord était désormais ouverte, conseillant aux États-Unis de saisir l'occasion. L'autre haut diplomate iranien a souligné que Téhéran est sérieux quant à la conclusion d'un bon accord durable et fiable sur l'accord connu sous le nom de JCPOA. Il a cependant reproché à Washington de n'avoir offert aucune initiative lors des pourparlers de Doha. Le haut diplomate iranien a déclaré que l'Iran s'était toujours engagé à respecter ses obligations en vertu de l'accord et s'attend à ce que les autres parties fassent de même. La ministre française des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que toutes les parties devaient s'efforcer de parvenir à un accord acceptable pour toutes. Colonna a ajouté que la fenêtre de la diplomatie reste ouverte. La date et le lieu du prochain cycle des négociations bientôt finalisées, a déclaré Téhéran. Ali Borelikhani, le chef de la délégation iranienne aux négociations visant de la levée des sanctions, a annoncé dimanche que les consultations pour déterminer le lieu et le calendrier du prochain cycle des négociations seraient bientôt finalisées. S'adressant à la presse, en marge de la 4e conférence internationale intitulée « Les droits de l'homme américains du point de vue du leader de la révolution islamique » à Téhéran, Borelikhani a noté que les négociations de Doha se sont déroulées conformément à des cadres prédéterminés. La poursuite de ces discussions dépend de l'accord entre nous et l'autre partie, en particulier le coordinateur de l'Union européenne pour les négociations, M. Henrik Mora, ajoutait Borelikhani, en précisant « La conversation entre nous et M. Mora pour décider du lieu et du moment du prochain cycle de négociations sont en train d'être finalisées ». Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères en visite à Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a accueilli il y a quelques heures le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères à Téhéran. En janvier 2022, Amir Abdollahian a effectué une visite d'une journée en Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise s'est rendu à Téhéran pour discuter de questions bilatérales, régionales et internationales. Ceyhun Bayramov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, a rencontré le président du Parlement iranien, Mohammad Borel Golibov, lundi 4 juillet. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'accroissement de la coopération bilatérale dans divers domaines. Lors d'un entretien téléphonique, samedi 14 mai 2022, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov a fait part de sa décision pour se rendre en Iran. Bombardement chimique de Sardasht, la diplomatie iranienne dénonce le mutisme sélectif des pays qui se revendiquent défenseurs des droits de l'homme, conformément à la Journée nationale de lutte contre les armes chimiques et biologiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné dans un tweet lundi 4 juillet que le bombardement chimique de Sardasht était le comble de l'insolence du régime de Saddam dans la guerre imposée contre notre pays, soutenue par les Occidentaux. La grande nation iranienne n'oubliera jamais le silence et la complicité des pays qui se revendiquent défenseurs des droits de l'homme dans ce crime brutal et barbare et contraire au droit international, a-t-il insisté. Le 28 juin 1987, la ville de Sardasht, à l'ouest de l'Iran, a été bombardée par le régime dictatorial de Saddam qui avait recours aux armes chimiques acquises chez les fournisseurs occidentaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la plus grande attaque chimique au monde a été perpétrée contre l'Iran par une dictateur cruelle soutenue par les Occidentaux pendant la guerre imposée 1980-1988. Enfin, l'acte d'accusation sur l'assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons sera publié prochainement. Le chef adjoint du pouvoir judiciaire pour les affaires internationales, qui est aussi secrétaire du Comité iranien des droits de l'homme, Kazem Gharibabadi, a annoncé dimanche la fin de l'enquête en Iran sur l'assassinat du général martyr Qassem Soleimani et de ses compagnons par les États-Unis. Notons que le département des affaires internationales du ministère public iranien a préparé l'essentiel du texte de l'acte d'accusation qui sera remis prochainement au tribunal pénal de Téhéran pour examen et conduite des procédures pénales. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Retour sur la visite du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, en Syrie. Au cours de sa visite à Damas ce week-end, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a discuté avec le président syrien Bachar al-Assad des moyens d'établir la paix et la sécurité dans la région, plus efficacement que jamais, des relations bilatérales et des dernières évolutions mondiales. Ces derniers jours, les autorités turques ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité de lancer une nouvelle série d'attaques contre le nord syrien et s'étaient dites prêtes pour une nouvelle offensive. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes quant à la reprise des conflits dans le nord syrien entre les différents acteurs présents dans la région. À cela s'ajoutent des problèmes potentiels pour les habitants de cette région. Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit sanglant armé, fruit amer d'une conspiration multiforme menée par ses ennemis, tels qu'Israël et les États-Unis, ainsi qu'aux certains de ses voisins des quatre côtés du pays, qui a déstabilisé le pays. Bien que le conflit s'est quelque peu atténué ces dernières années, mais il existe des motifs de reprise des violences armées et des tensions, comme la poursuite de l'occupation des régions septentrionales du pays, y compris la province d'Idlib, par des terroristes soutenus par les pays occidentaux, où sont présents des groupes armés qui cherchent toujours à semer la terreur. Avant sa visite de 2 jours en Syrie, le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian avait rencontré de hautes autorités turques, dont le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu, lors d'un déplacement de 4 jours en Turquie. À son arrivée en Syrie, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a souligné au micro des journalistes que sa visite vise à établir la paix et la sécurité dans la région et à rapprocher à cet effet la Syrie et la Turquie, deux pays voisins avec qui la République islamique entretient de bonnes et d'importantes relations bilatérales. Nous comprenons les préoccupations turques concernant les questions de sécurité. Nous sommes fermement opposés à toute action militaire, quelle que soit sa justification, et nous essayons de résoudre les malentendus existants opposant la Turquie et la Syrie par la diplomatie et le dialogue politique, a souligné le ministre. À l'issue de sa rencontre avec son homologue syrien, Faisal Megdad, le ministre des Affaires étrangères a souligné que Téhéran mettrait tout son possible pour dissiper les malentendus opposant la Syrie et la Turquie par la voie de la diplomatie et du dialogue politique, afin d'empêcher la guerre dans le nord syrien. La Turquie déclare que la raison de ses actions militaires sur le sol syrien est la présence de groupes armés et terroristes près de ses frontières communes et qu'elle veut une zone de sécurité dans la région. La Turquie a intervenu sur le territoire syrien d'abord une première fois en 24 août 2016, puis en janvier 2018 dans le canton d'Afrin. Le président Erdogan dit vouloir lutter avec la même détermination contre les forces kurdes FTS que contre Daesh. Ces opérations ont conduit à l'entrée de l'armée turque dans une zone de 30 km de profondeur dans le territoire syrien. Désormais, sous prétexte de créer une région autonome dans le nord de la Syrie, Ankara annonce que ses forces sont prêtes à lancer une nouvelle série d'opérations militaires dans ces régions, ce qui a accru les inquiétudes quant à la réescalade des tensions. Un autre objectif important de la visite d'Amir Abdollahian en Syrie devrait être l'étude des moyens de développer et d'élargir davantage les relations bilatérales Téhéran-Damas. Les deux parties tentent de développer et d'étendre les relations sur divers plans militaires, économiques, culturels et sociaux. Ceci parallèlement aux relations politiques conformément à la volonté des autorités politiques respectives de haut rang des deux pays. Conformément à cet objectif, le président syrien Bachar Assad s'est rendu à Téhéran à plusieurs reprises, voire en pleine crise sévissant dans son pays, dont la dernière fois était le 8 mai 2022, au cours de laquelle il a rencontré le guide suprême de la révolution, l'Ayatollah Khamenei, et le président Ibrahim Raisi. Le dernier mot serait peut-être la médiation iranienne en activant le dialogue entre la Turquie et la Syrie pour résoudre les problèmes qui touchent la région depuis une décennie et qui sont provoqués et alimentés par certaines parties et puissances étrangères. La région peut voir plus de paix grâce à laquelle le règlement d'autres problèmes serait envisageable.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er juillet 2022. La Russie et la Chine ont fermement réagi à la nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN adoptée à l'occasion du sommet de l'alliance militaire qui s'est achevé hier jeudi à Madrid. Le président russe Vladimir Poutine a fustigé les ambitions impériales de l'alliance militaire qui cherche, selon lui, à affirmer son hégémonie par le conflit, en effet, ukrainien. Le président Poutine a prévenu que la Russie réagirait si l'OTAN venait à déployer ses forces et installer des infrastructures en Suède et en Finlande lorsque les deux pays nordiques auront rejoint l'alliance transatlantique menée par les États-Unis. La Chine a également fustigé les efforts vains de l'OTAN pour la salir et accusé l'alliance militaire d'avoir les mains couvertes de sang. À noter que lors de leur sommet à Madrid, les dirigeants de l'OTAN ont déclaré que les politiques et les liens étroits de Pékin avec la Russie constituaient un défi majeur pour les intérêts et la sécurité de l'alliance militaire. Les pays de l'OTAN ont par ailleurs validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l'alliance qui va porter à 300 000 militaires les effectifs de ces forces à haut niveau de préparation. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur ce sommet de l'OTAN à Madrid, la réaction de la Russie et de la Chine et bien entendu la perspective des évolutions à venir, notamment sur fond bien entendu du conflit ukrainien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Moscou et Pékin ont fait front commun contre l'Alliance Atlantique dont le sommet s'est achevé jeudi. Les pays leaders de l'OTAN souhaitent affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales, a fustigé mercredi soir le président russe Vladimir Poutine lors d'un déplacement à Ashgabat, la capitale turkmène. L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l'Ukraine est le bien du peuple ukrainien, ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'OTAN, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts, a-t-il insisté. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé que Moscou n'avait aucun problème avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, mais que le Kremlin réagirait avec force si l'alliance militaire occidentale déployait des troupes et des infrastructures dans ce pays une fois qu'il deviendrait membre. Selon Poutine, l'adhésion porterait un coup inévitable aux relations de Moscou avec Helsinki et Stockholm. La Chine a dénoncé jeudi les efforts complètement vains de l'OTAN pour la salir après la publication la veille par l'alliance militaire d'un document présentant Pékin comme une menace pour ses intérêts. Ce prétendu document de concept stratégique de l'OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l'envers, a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'obstine à tort à présenter la Chine comme un défi systémique et à salir la politique étrangère chinoise, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse régulière, soulignant la ferme opposition de Pékin. L'OTAN a jugé mercredi que Pékin représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l'occasion de son sommet de Madrid. L'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de dominer l'ordre international basé sur la règle.
On va tout de suite se rendre à Damas pour rejoindre Maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel.
Alors, le temps fort de l'actualité internationale, ce sont même des pays de l'Alliance transatlantique qui s'est achevée hier à Madrid et l'évolution importante, justement, alors l'adoption de ce nouveau concept stratégique, de cette nouvelle feuille de route stratégique qui qualifie la Russie de menace directe et la Chine de défi pour les intérêts et la sécurité de l'Alliance transatlantique. Dans quelle mesure cette nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN et son approche vis-à-vis de la Russie et de la Chine va en effet modifier la donne géopolitique internationale sur fond de crise ukrainienne?
Écoutez, je dirais à titre préliminaire que le document en question n'est en fait qu'un copier-coller de la posture stratégique adoptée par le Pentagone dès janvier 2021, qui a toujours mis en avant effectivement l'alliance russo-chinoise, soi-disant les puissances révisionnistes, hein, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, comme étant les défis stratégiques des États-Unis. Donc au départ, comme l'OTAN est avant tout les États-Unis au niveau du financement et au niveau de l'équipement et des forces armées sur le papier, ce n'est qu'une transposition quelque part de cette doctrine stratégique du département de la défense US dans un format otanesque. Et donc dans ce contexte-là, c'est une forme de mise à jour, comme vous le dites, sur fond d'élargissement de l'OTAN en Europe, et maintenant c'est officiel à la Suède et à la Finlande. Et dans le contexte asiatique, on notera que étaient invités au sommet de l'OTAN à Madrid quatre pays de la sphère asiatique, à savoir donc le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, on peut voir que l'OTAN avance ses pions. On est maintenant bien au-delà de ce que l'Alliance était supposée être lors de sa création en 1949, une alliance purement défensive, pour être devenue maintenant une espèce d'outil au service de l'hégémonie finissante états-unienne, qui s'efforce par un jeu de contrôle politique de pays dans lesquels ils exercent une certaine influence depuis des décennies, de lier tous ces pays d'une manière ou d'une autre pour les contenir dans un premier temps, les mettre en ordre de bataille, avec cette idée de contenir l'émergence inexorable du compact eurasiatique co-dirigé plus ou moins par Moscou et Pékin.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Develay, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et à Maître Develay. Le bloc américain occidental, parce que l'OTAN, ce n'est que ça, ce sont les vassaux des États-Unis réunis dans une alliance qui n'est pas militaire, mais qui est une alliance de vassalisation politique et géopolitique. Et les alliés européens et asiatiques des États-Unis ont fait preuve d'une erreur stratégique majeure. Les Romains appelaient hubris cet excès de confiance qui poussait une partie militaire à s'engager dans le chemin de la défaite. C'est ce qu'ont fait les États-Unis en provoquant une guerre sur deux fronts, à la fois contre la Russie et contre la Chine. On sait que Napoléon a perdu la guerre en Europe lorsqu'il s'est engagé à la fois contre la Grande-Bretagne et contre la Russie. L'Allemagne a perdu la guerre de 1914-18 en la menant sur deux fronts. Hitler a perdu la guerre en la menant celle de 40-45.
Nous avons visiblement un souci de liaison avec Luc Michel, donc en attendant que notre contact soit rétabli, on va continuer avec Maître Develay. Maître Develay, pour Monsieur Michel, là il s'agit l'adoption de cette nouvelle feuille de route. S'agit d'une erreur stratégique. Alors Moscou aussi a réagi justement à pointer du doigt l'agressivité de l'OTAN. Alors la question qui se pose, donc là, en toute évidence, il paraît que c'est une déclaration de guerre ouverte, non seulement contre la Russie, mais aussi contre la Chine. Quelles seront les répercussions de cette erreur stratégique des pays membres de l'OTAN, bien entendu menée par les États-Unis?
Oui, j'allais compléter en fait ce que semblait faire allusion à Luc Michel. Effectivement, c'était donc les Grecs, enfin plutôt les Romains, mais les Grecs qui avaient conceptualisé ce concept de hubris, donc cette arrogance complètement disproportionnée. Mais il faut savoir que l'hubris est souvent précède ce qu'on appelle némésis, donc le retour de bâton. Et dans ce contexte-là, effectivement, ces déclarations intempestives, conceptualisées dans des formats où on ne peut plus officiel, ne peuvent être interprétés par Moscou et Pékin que comme des déclarations bellicoses. Ce faisant, Moscou a pris le soin de prendre note, effectivement, du fait que rien n'empêche la Suède et la Finlande, pour ne parler que d'eux, de rejoindre l'Alliance, mais que pour peu que l'Alliance, maintenant, procède de la manière qui semble logique, à savoir mettre en place des installations militaires et des troupes dans ces pays, Moscou se devra de répondre, sachant que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu que Moscou savait prendre acte d'une situation, et pour peu que cette dernière soit de nature existentielle quant à la sécurité de la Fédération de Russie, Moscou saura réagir. Donc on peut parfaitement extrapoler cette analyse à ce qui se passerait dans l'éventualité d'une tête de pont otanesque dans la région asiatique. Pékin ne souhaite simplement rappeler les obligations de ce qui avait été mis en avant au début des années 70 lors de la visite de Kissinger à Pékin, à savoir que Taïwan, pour ne parler que de ce dossier, est une partie intégrale de la Chine, et ce faisant, toute tentative par les puissances extérieures à la région de remettre en cause ces traités et cette doctrine serait vouée à l'échec, et donc Pékin prendra ses responsabilités. Même si officiellement il a été mis en avant que la participation à ces quatre pays, donc encore une fois, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, portait plutôt sur les allégations comme quoi la Corée du Nord était sur le point de réactiver ses activités portant sur un programme intercontinental balistique et donc nucléaire. On sait très bien qu'en toile de fond, c'est Pékin qui est visé avant tout. Donc Pékin n'est pas naïf, et on peut penser que prétentions, ces déclarations intempestives, ces battements de poitrine sont pris en compte, que ce soit à Pékin ou à Moscou, comme malheureusement étant porteurs d'une perception qui laisse entendre que l'OTAN, non seulement dans le contexte ukrainien, n'a pas l'intention de jouer l'apaisement, de privilégier la diplomatie, mais qu'au lieu de cela, maintenant, on semble s'orienter vers une autre expansion de l'OTAN dans une région qui lui est complètement, si on s'en tient en tout cas au nom de l'Alliance nord-atlantique, complètement hors sujet. Donc, l'OTAN plus que jamais se révèle comme étant un outil que les États-Unis utilisent. Merci. Pour retarder leur perte d'hégémonie et donc, partant de là, l'émergence du monde multipolaire.
Merci, merci encore. Nous sommes en ligne avec Luc Michel. Monsieur Michel, le président Poutine a menacé de réagir justement si l'OTAN venait à déployer des militaires et installer des infrastructures dans les deux pays, en effet, nordiques, à savoir la Suède et la Finlande. À quoi pourrait ressembler la réaction de la Russie, M. Michel, et quel en sera l'impact, notamment sur le cours des événements en Ukraine?
Écoutez, l'OTAN prétend qu'il assure la sécurité de ses membres, mais en réalité, il met cette sécurité en grave danger. En déployant des troupes aux frontières de la Russie, ils vont obtenir une réponse symétrique. C'est-à-dire que la Russie va déployer des troupes, mais va également déployer des armes nucléaires tactiques. C'est déjà ce qui se passe à Kaliningrad, dans l'enclave à côté de la Lituanie. C'est cela qui va se passer puisque des accords viennent d'être conclus avec Loukachenko au Bélarus pour doter l'armée du Bélarus d'armes nucléaires stratégiques. Donc la sécurité des membres de l'OTAN va être gravement endommagée. Il faut constater que l'OTAN, évidemment, n'a qu'une réponse militaire. L'extension de l'OTAN à l'Est, mais c'est pas ça qui est l'important, c'est pas l'extension à la Finlande et à la Suède, puisque les armées de la Finlande, de la Suède, mais également de la Suisse, ne sont plus neutres et elles étaient déjà intégrées à l'OTAN avec du matériel OTAN. Ce qui est en jeu, c'est l'extension de l'OTAN à ce qu'on appelle le cours, l'OTAN du Pacifique, avec le Japon et l'Australie qui visent directement la Chine. La Russie, c'est l'adversaire immédiat, mais la Chine, c'est l'adversaire principal. C'est évidemment un militarisme excessif qui va amener les gens de l'OTAN à la catastrophe, évidemment. Déjà en 2015, lorsque l'OTAN a déployé des articulés et des radars en Roumanie et en Pologne, elle a dirigé les missiles nucléaires russes directement vers le territoire roumain et vers le territoire polonais. En 2015, j'avais déclenché avec une tribune sur le média soutique, j'avais déclenché en Roumanie un scandale international, puisque j'ai fait la une de toutes les télévisions roumaines pendant 3 mois. J'avais expliqué aux Roumains, à qui on ne l'avait pas expliqué, qu'en choisissant d'accueillir les armements de l'OTAN, ils s'étaient désignés comme une cible des missiles nucléaires russes, ce qui avait évidemment refroidi l'opinion publique. C'est ce qui va se passer pour tous les nouveaux pays de l'OTAN, la Finlande, la Suède, mais également l'Allemagne, la Lituanie. À Kaliningrad, les Russes vont déployer des armes nucléaires qui pourront toucher jusque Amsterdam, Rotterdam, Berlin, bien entendu, et pas seulement Vilnius en Lituanie ou Varsovie en Pologne. Voilà ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est un facteur de guerre au niveau international et en particulier en mer Noire et en mer de Chine.
Merci infiniment, Monsieur Michel. Maître Develet, donc, alors, les pays de l'OTAN, lors de leur récente réunion, non seulement ont validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental, mais aussi ont promis, en effet, des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a même tenté de faire croire que dans les mois à venir, l'Ukraine pourrait avoir un avantage militaire sur la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de faire durer la guerre en Ukraine avec la multiplication, en effet, de la vente et des livraisons d'armements sophistiqués à l'Ukraine, Maître Develet?
Je dirais qu'il y a deux approches, l'une qui s'embrique dans la première. La première, bien sûr, c'est quelque part l'enrichissement du complexe militaro-industriel qui, dans le contexte d'un accord de prêt, Lend-Lease, hein, comme qui avait été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, ils se débarrassent de leurs arsenaux actuels, ce qui leur permettra ensuite pouvoir justifier des demandes de budget auprès du Congrès. Donc tout ça, c'est une question de business hein, pour les fabricants d'armes. Je noterai aussi que pour beaucoup de membres de la classe politique américaine corrompue jusqu'à l'os, c'est une manière aussi de blanchir de l'argent au travers de politiques officielles adoptées au sein du Congrès pour mieux ensuite récupérer des rétrocommissions. Sur un plan doctrinal, écoutez, je m'en tiens aux déclarations il y a quelques mois de cela de Lloyd Austin, qui avait lui-même déclaré que l'objectif était faire perdurer le conflit en Ukraine afin d'affaiblir la Russie. Donc les objectifs doctrinaux sont parfaitement établis. L'objectif, si des gens en doutaient encore, c'est de pressuriser la Russie, d'isoler le continent européen de la Fédération de Russie, créer un nouveau rideau de fer quelque part, et préserver l'aire d'influence des États-Unis en Europe. Et ce faisant, dans la façon dont ils voient les choses, en tout cas, fragiliser le pouvoir russe avec l'espoir d'un changement de régime en interne.
Merci encore. Alors, je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne avec M. Michel. M. Michel, vous êtes toujours avec nous?
Je suis toujours là, monsieur.
Voilà. Alors, en deux, trois minutes concernant justement, parce que c'est la première fois que l'OTAN, en effet, qualifie la Chine de défi de taille pour ses intérêts et sa sécurité. Donc, alors, cette nouvelle approche de l'OTAN, qu'est-ce qu'il va changer sur la scène des relations internationales et plus particulièrement dans les relations entre la Chine et les pays européens?
Écoutez, un militarisme exacerbé et des tensions supplémentaires envers noir dans toute l'Europe centrale et envers de Chine et envers du Japon. L'OTAN, c'est donc un facteur d'instabilité mondiale, mais c'est le but des Américains, puisque les Américains sont décidés à aborder en position de force la Troisième Guerre mondiale et donc cherchent ce militarisme. Qu'est-ce qui va arriver, bien entendu? C'est la fin du nouvel ordre mondial qui était basé sur une domination américaine, mais sur le commerce avec la Russie et avec la Chine. La Russie, c'est l'atelier du monde. On va rompre les relations commerciales, en particulier de l'Europe avec les Chinois, mais on rompt également les relations commerciales dans le domaine des hydrocarbures avec le principal fournisseur de l'Europe. C'est d'ailleurs le but des Américains. Les Américains ont un agenda double. D'une part, un agenda géopolitique militaire contre la Russie et la Chine, mais un agenda économique contre l'Europe. Les Américains sont donc gagnants à court terme, ils sont perdants à long terme. Je voulais expliquer en entête de cette émission, c'est une erreur stratégique majeure de vouloir faire la guerre en même temps sur deux fronts. Maintenant, tout cela va conduire à un monde instable et le monde va déboucher vers un monde multipolaire. Face à l'OTAN et à son pendant économique, le G7, il y a maintenant l'organisation de coopération de Shanghai, Moscou, Pékin et l'Iran. Il y a les BRICS qui sont en train de s'étendre, mais il y a également la revitalisation des États non alignés, l'héritière de la Yougoslavie, de Tito, de l'Égypte de Nasser et de l'Indonésie, de Sukarno, dans les années 60. Vous avez vu que l'Indonésie organise le prochain G20 en novembre et elle a invité en personne Vladimir Poutine qui a l'intention de s'y rendre. C'est une gifle qui est adressée par ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui le monde multipolaire, à ce monde occidental arrogant qui ne comprend pas que le cycle géopolitique de sa domination absolue est terminé depuis les années 2015.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Au jardin des compagnons de voyage. Farouk Farrokhzad, la poésie miroir d'une femme. Né dans une famille de militaires à Téhéran, le 5 janvier 1935, Farouk est la troisième d'une fratrie de sept. Sous l'influence de son père, qui s'intéresse beaucoup à la littérature et surtout à la poésie, Farouk s'intéresse très tôt à ce domaine et commence à écrire de petits poèmes qui révèlent un manifeste talent poétique. En 1948, à la fin du primaire, il commence à écrire des ghazals. Après avoir obtenu son diplôme secondaire, elle s'inscrit à l'école technique de Kamal al-Molk, où elle étudie la couture et la peinture. En 1950, à l'âge de 16 ans, elle se marie avec l'homme de son choix, son cousin Parviz Shapur, satiriste iranien de renom, malgré l'opposition de leurs familles respectives. Un mariage malheureux qui la laisse déçue et qui marque fortement ses futurs poèmes. Elle donne ainsi naissance un an après son mariage à son unique fils Kamyar et se sépare de son mari en 1954 qui obtient la garde de l'enfant. Cette double séparation la fragilise beaucoup. C'est à partir de ce moment qu'elle commence à correspondre avec des magazines de renom. Son premier recueil, La Captive, paru en 1952, la fait connaître au public. On y ressent la large influence de Fereydoun Moshiri, Nader Naderpour et Fereydoun Tavallali. Ses recueils suivants sont Divar, le mur, publié en 1956 et dédié à son ex-mari, et Sian, la rébellion, publié en 1958. C'est au cours de cette même année qu'elle rencontre Ebrahim Golestan, célèbre écrivain et cinéaste iranien, et qu'elle commence à coopérer avec lui en tant qu'assistante. Farouk poursuit des études cinématographiques, l'art du film, en Angleterre en 1959. Elle termine à cette époque Tavallodi Digar, une autre naissance, qui est publiée en 1964. Cette œuvre est dédiée à Ebrahim Golestan. Cette même année, Farouk tourne son film, Un feu, puis joue dans La proposition en 1960. Farouk retourne en Angleterre l'année suivante. En 1961, elle produit Eau et chaleur, qui décrit la chaleur sociale et industrielle d'Abadan. Le film rencontre un certain succès. Toujours en 1961, elle joue dans La mer, une production jamais terminée, basée sur une histoire de l'écrivain iranien Sader Chubak, intitulée « Pourquoi la mer est devenue orageuse ». En 1962, elle déménage à Tabriz et réalise en 12 jours « La maison est noire ». Khane Siyahast, un film sur la vie des lépreux. Le film remporte le Grand Prix documentaire au Festival Oberhausen en 1963. Et le 13 février 1967, alors qu'elle conduisait sa Jeep wagon, elle heurte un mur en essayant d'éviter un véhicule venant en sens inverse. Éjectée de sa Jeep, elle décède des suites de blessures à la tête. L'œuvre poétique de Farouk peut se diviser en deux parties bien distinctes, témoignant de l'évolution de la pensée de leur créatrice qui sort progressivement du cadre restreint des sentiments féminins pour accéder à un univers plus vaste concernant l'existence, l'être humain et la vie de tous les jours. Les poèmes contenus dans ces trois premiers recueils, « La captive »,« Le mur » et « La rébellion », est composé de 1952 à 1959, reflète comme un miroir l'image d'une femme seule et rebelle, animée par de purs sentiments féminins, et qui se dresse contre les règles et conventions sociales traditionnelles. La vague des passions domine l'ambiance poétique des premiers poèmes de Farouk. Tout ce peuple qui traverse son esprit est exprimé au travers de tout un réseau de mots, mettant en lumière les méandres de sa pensée et de ses sentiments. cœur, amour, nuit, ténèbres, baiser, espoir, regret, prison, désir, péché, tombeau, mort, Dieu, main, fenêtre, compte ainsi parmi les termes qui l'on retrouve fréquemment d'un poème à l'autre. Ils expriment la vie d'une femme enfermée dans le cocon de la vie conjugale, jugeant son existence vide et sans but, monotone et inintéressante. Une femme qui, pour se débarrasser du désenchantement et de l'ennui, se réfugie dans l'univers enchanté de la poésie, exprime sous forme de quatrains et au travers d'une accumulation de mots, expressions et images, des revendications féminines. Les vers suivants montrent à quel point le sentiment d'être prisonnière hante la poétesse. Je pense, et je sais que jamais je ne pourrai me libérer de cette cage. Même si le geôlier me libérait, je n'aurais plus la force de prendre mon envol. À partir d'une autre naissance, Faurour trouve enfin son propre langage, lequel se nourrit de ses expériences spécifiquement féminines. C'est dans ce recueil que Faurour nous présente des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes, au travers desquels elle exprime les sentiments qu'elle n'a jamais éprouvés dans l'univers borné des revendications féminines. En adoptant un point de vue résolument pessimiste, elle y décrit la société de son temps, les problèmes du peuple iranien à une époque de transition entre tradition et modernité. En amont, la vie de tous les jours, et tout cela en utilisant un langage simple et à la fois très imagé. La vie est peut-être une longue rue, traversée tous les jours par une femme et son panier. La vie est peut-être une corde avec laquelle un homme se pend à un arbre. La vie est peut-être un écolier qui rentre de l'école. Pourtant, c'est dans la dernière œuvre poétique de Faurour, ayant foi en l'approche de la saison froide, comportant ses poèmes composés durant les trois dernières années de sa vie, que la nouvelle naissance poétique de celle-ci atteint son apogée. La poétesse dépeint sa situation dans les vers qui ouvrent le recueil. Et c'est moi, une femme seule, en approche d'une saison froide, venant de comprendre l'existence polluée de la terre, et le désespoir simple et triste du ciel, et l'impuissance de ses mains en ciment. Tous les poèmes de ce recueil ne sont que le développement de ces premières notions qui nous présentent l'image d'un être humain, vulnérable et sensible, contemplant le monde à travers une grande fenêtre. Le lecteur y est témoin d'un changement radical en ce qui concerne tant la forme que le contenu. La poétesse s'y montre de plus en plus inspirée par Nima. Elle abandonne la forme du quatrain pour adopter un style plus libre, s'accordant avec l'élargissement de son horizon ainsi que de son imagination. Faurour ne cherchait pas à suivre une démarche exclusivement esthétique. Elle aspirait davantage à décrire le monde réel avec tous ses aspects matériels et spirituels, et ce en utilisant des termes parfois éloignés du langage poétique. Elle parle des objets banals, ce qui lui permet de nous révéler les recoins les plus anodins et inattendus de la vie quotidienne. Dans ce sens, les termes romantiques qui dominaient l'univers poétique de Faure au début de sa carrière littéraire disparaissent peu à peu dans ses deux derniers recueils. L'amour, la nuit et la fenêtre y apparaissent de façon plus marquée. Mais le sens contenu dans ces termes est l'objet d'une grande mutation. La poésie de Faure est en quelque sorte le reflet de la vie. On peut dire qu'après Nima, elle est l'un des plus grands poètes contemporains qui, après avoir publié trois recueils, a également provoqué une nouvelle naissance au sein de la poésie persane. Ses poèmes sont à l'image de son existence, vibrants, malgré un arrière-plan tourmenté, nostalgique. L'amour y a la première place. On y trouve des références à la mythologie persane. Mais c'est surtout la profonde sensualité de cette poésie qui touche. Je parle de l'extrême de la nuit, de l'extrême de l'obscurité et de l'extrême de la nuit. Ô mon tendre, quand tu viens chez moi, apporte-moi un flambeau et une fenêtre d'où je puisse voir la foule dans la ruelle heureuse. Cette poème figure sur la tombe de Faure Farrokhzad. Sur ce, nous vous quittons et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, où nous vous lirons quelques poèmes de cette poète Faure Farrokhzad. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.